courageux de chanter sans les instruments. Ça fait tout drôle, ça nous ramène des années en arrière quand on n'avait pas de musiciens. Que Dieu les bénisse aujourd'hui. Stéphane, je l'ai eu au téléphone, il était avec son papa en Charente, il m'a dit j'ai été acheter des charentaises. Et puis notre frère Olivier est avec des amis, ils sont rejoints cet après-midi par ses parents. Et je voudrais vous dire, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film, mais il paraît que Lydie joue dans un film qui vient de sortir qui s'appelle La Marche. Alors, il faut aller voir La Marche. Pas le frère La Marche, hein, le film La Marche. Si, je ne sais pas si, qu'est-ce que c'est ce film. Ça raconte une histoire d'une marche qui a eu lieu dans les années 80, je crois. Une marche contre le racisme, quelque chose comme ça. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, c'est bien, c'est son premier long métrage, quoi. C'est formidable. Éphésiens chapitre 1, verset 13, avec moi, s'il vous plaît. Éphésiens 1, 13. En lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et puis un autre texte dans Éphésiens 4, 30, où l'apôtre dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il devient bruyant ce micro, hein. À peine on le touche, ça fait doub, doub, doub. Faut vraiment qu'on fasse des frais, qu'on achète un micro-cravate ou quelque chose comme ça. Eh bien, mes frères et sœurs, vous vous rendez compte, on est déjà arrivé au dernier mois de l'année 2013. Eh bien, mes enfants, ça passe, hein. Mais quelle année! Quelle année! On a vu notre frère Osborne nous quitter, et puis Raphaël qui est parti, et puis... Cette semaine, son épouse, notre chère sœur Violette. Pour moi, ça a été une année spirituellement difficile. Mais bon, tous ces grands serviteurs de Dieu nous ont quittés et l'histoire de l'Église continue. Mais ça fait quand même de la peine parce que bon, on sait qu'on ne les reverra plus sur cette terre et... toutes sortes de souvenirs reviennent. J'ai essayé de me rappeler le premier souvenir que j'ai de Violette. Alors c'était à la Maison du Peuple à Lausanne. Elle était au fond de la salle, là où j'étais assis en fait. Et puis il y avait ma mère qui était là. Et Violette se penche vers ma mère et puis elle lui dit « Ma bonne sœur, prie pour Raphaël. » Parce que son pantalon, il tient avec des ficelles. Prie pour que les ficelles tiennent jusqu'au bout, sinon le pantalon tombe. C'était des gens qui étaient pauvres, ils n'avaient rien. Ils sont venus en Suisse par leurs propres moyens pour prêcher l'évangile et ils n'avaient rien. Ils étaient pauvres. Et le Seigneur les a bénis. Il y a eu tellement de guérisons, tellement de gens sauvés, dont moi. Et c'était une époque merveilleuse. Alors, il y a eu beaucoup d'autres souvenirs avec... Violette, qui était une femme authentique, une femme formidable, une femme de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes la génération qui est entrée sur la scène de la condition mortelle au cours de la plus importante dispensation de l'Église. Ceux qui nous ont précédés ont été des héros, des Branham, des Billy Graham. Vous savez que Billy Graham a 95 ans aujourd'hui, 95 ans. Des Osborne, des Le Cossec, des Raphaël, des Violette Duval. Bon, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont marqué aussi notre dispensation. Et tous ces gens-là étaient des héros. Et je me souviens du premier livre chrétien que j'ai lu. J'en lisais quelques chapitres chaque semaine pendant la récréation à l'école de technologie où j'ai passé 3 ans à Lausanne, entre 65 et 68. Ce livre... je vous le recommande, c'est « La paix avec Dieu » de Billy Graham. Billy Graham. Je n'étais pas encore né de nouveau, mais ce livre, il parlait à mon cœur et je me réjouissais d'une semaine à l'autre d'aller le lire, d'aller en lire quelques passages. Puis Raphaël est arrivé, en juin 68. Et là, je suis né de nouveau. Et puis, j'ai commencé à prier pour mon premier malade, qui était un homme atteint de la maladie de Parkinson, qui était guéri. Et je voudrais aussi rendre témoignage que notre sœur Michèle, qui est ici, son médecin lui a dit qu'elle est guérie de sa maladie de Parkinson. C'est la vérité, ma sœur. Amen. Et ça s'est passé quoi, il y a 2 semaines? La semaine dernière. Le médecin vous a dit ça la semaine dernière. Gloire à Dieu. Vous voyez que la prière, hein, c'est pas rien du tout. Le Seigneur Jésus agit toujours, il est toujours le même. Des fois, les gens me disent, mais pourquoi tu fais tant de choses en Afrique et rien ici? Mais on fait, simplement, bon, voilà, vous le savez pas. Mais Dieu est vivant, Dieu est tout puissant. Et c'est Raphaël qui m'a montré comment prier pour les personnes malades. Et je dois beaucoup à cet homme et à cette femme, surtout aussi à cette femme, parce qu'en 69, l'année d'après, quand ils sont revenus, Violette a prié pour moi au bord du lac Léman, dans une petite 2 chevaux, et là, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et des années après, je disais, mais comment ça se fait qu'il se passe tant de choses avec moi, alors que bon, je ne suis pas un jeûneur extraordinaire, je ne suis pas un prieur extraordinaire, et puis je connais mes défauts, et Camélia me disait toujours, mais c'est parce que tu n'as rien compris, tu n'es pas seulement baptisé dans le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Ah, ben je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais enfin, avec l'expérience, maintenant, je me rends compte qu'il y a une différence entre être baptisé dans le Saint-Esprit à un moment donné dans sa vie, et être rempli du Saint-Esprit tout le temps. En 74, pour la première fois, j'ai rencontré en vrai, comme on dit, celui qui allait m'ordonner dans le ministère, c'est-à-dire notre frère T.L. Osborne, qui est devenu un ami. Et ma vie a pris un virage décisif, là, à ce moment-là. Bon, j'avais lu tout ce qu'on pouvait lire de lui, j'avais écouté toutes les bandes qu'on pouvait écouter, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et là, à partir de ce moment-là, ça a été fantastique. Et puis, le 28 septembre 1994, Branham est arrivé dans notre communauté. Et ça, ça a été aussi un choc terrible pour moi. J'ai compris tellement de merveilles, tellement de choses. Le monde prophétique s'est ouvert à moi avec le ministère des anges. Et plus que jamais, ça a été une ouverture sur le monde spirituel vraiment magnifique. Il a ouvert des portes pour nous. Et en particulier, je vous recommande, vous qui ne connaissez peut-être pas, ce sont 2 livres. Un qui s'appelle les sept âges de l'Église, je crois que c'est ça le titre. La révélation des 7 âges, je crois. Et puis un autre qui s'appelle les 7 sceaux. Il faut lire ces 2 livres. Il faut d'abord lire les 7 âges et ensuite il faut lire les 7 sceaux. Si on n'a pas lu ces livres, on a passé à côté de quelque chose de très important. Parce qu'en fait, tout son ministère, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ça c'est bien. Mais le summum, c'est ces 2 livres. Peut-être aussi avec la brochure, la stature d'un homme parfait. Voilà, donc c'était pour nous, c'était phénoménal. D'abord, on a reçu ce ministère-là par prophétie. Il nous a été annoncé par ma mère, qui était prophétesse au milieu de nous. Et tout cela nous a préparé à recevoir Enoch. Alors aujourd'hui, à part Billy Graham, que j'ai jamais rencontré, tous ces grands serviteurs de Dieu sont retournés auprès du Père Céleste. Et puis nous, ben, nous on est encore là, avoir froid aux pieds en hiver. Demain, nous irons mettre notre sœur Violette en terre avec sa famille. Comme dit le Cantique des Cantiques, son esprit est retourné à Dieu qui l'avait donné et son corps retourne à la poussière d'où il est venu. Son âme est sauvée. Elle ressuscitera avec son corps. Elle ressuscitera avec son corps, mais elle ne me dira plus jamais, « Mon beau frère, pourquoi j'ai toujours cette douleur-là dans... » Elle avait de l'arthrite aux mains et ça la faisait souffrir. Vous voyez ? Des gens remplis de foi, priant pour les autres, mais eux-mêmes n'étant pas à l'abri. Elle disait toujours, le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Prie pour mes fils, elle disait toujours. Elle l'a dit ici, sur cette estrade. Elle ressuscitera avec son corps, mais avec un corps sans limitation, sans maladie, sans problème, tout ce qu'elle a connu comme souffrance. C'est des gens qui vivent à la dure, les gitans. Elle aura un corps glorieux, comme tous ceux qui ont été scellés. Je vous ai parlé il y a quelque temps du scellement Et je ne peux pas ne pas parler du scellement quand je parle de Violette, puisque Violette avait reçu de Dieu un don magnifique, rare. Et même lors de l'enterrement de Raphaël, le serviteur de Dieu qui a prêché a parlé de ce don. Il disait qu'elle avait ce don de sceller les gens dans le Saint-Esprit. Et c'était quelque chose de très fort. Des milliers ont reçu avec elle. Quand nous avons cru... Jésus dit, l'apôtre Paul dit, quand nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il disait aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? Un sceau, c'est un objet, mais c'est aussi une empreinte. En latin, le mot, c'est signum, qui a donné le mot signature. En croyant au Seigneur Jésus et en obéissant à l'ordonnance du baptême, puisque Jésus lui-même dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », en croyant au Seigneur Jésus et en étant baptisé, vous êtes dans la position de pouvoir recevoir la signature de Dieu sur votre vie. Il signe, il marque sur vous que vous êtes bel et bien à lui. C'est un gage pour le jour de la rédemption. C'est un sceau qui est sur vous. Vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais il y a quelque chose écrit sur vous. Vous n'êtes pas un fils du serpent. Vous êtes à lui, vous êtes à Dieu. Vous avez une marque. Au temps de Job, certaines personnes adoraient les étoiles et Job leur dit, sur les étoiles, Dieu a mis son sceau. Job 9, 7. C'est par là, Job est en train de leur dire, mais vous êtes en train d'adorer la créature, les étoiles ne sont pas des êtres divins. Les étoiles appartiennent à Dieu et Dieu a mis sa signature sur eux. Ils se moquaient d'eux. Il avait raison. Vendredi soir, je vous disais, vous portez son nom. On a un chant qui dit, nous portons son nom. Et ce matin, je vous dis, sa signature est sur vous. Son nom est sur vous. Porter le sceau de Dieu, c'est porter son nom. On ne porte pas un autre nom. On ne porte pas le nom de pentecôtiste, protestant, baptiste, Mennonite, méthodiste, darbiste ou quoi que ce soit. Tout ça, ce sont des noms de blasphème, nous dit Apocalypse. Nous ne devons pas porter ces noms-là. Nous portons qu'un seul nom, celui de notre futur époux, le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Or, c'est lorsque nous croyons au Seigneur Jésus que nous recevons le sceau du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met ce sceau sur nous. Il pose son nom. Le nom du Saint-Esprit, le nom du Père, le nom du Fils. Qui sont ces trois, non pas personnes, mais manifestations d'un même Dieu. Nous ne sommes pas des polythéistes, nous croyons en un seul Dieu. Il s'est manifesté comme Père créateur, comme Fils, c'est-à-dire germe de Dieu sur la terre, dans la chair, et puis comme le Saint-Esprit qui est venu dans nos cœurs, c'est Jésus qui vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Les catholiques ignorent beaucoup de choses, et souvent, quand ils se signent, eh bien, ils ne savent pas vraiment que ce signe, c'est une déviance du signe que le Saint-Esprit a placé sur nous. Nous ne nous signons pas, nous sommes signés. Eh oui. Mais il y a tant de confusion de nos jours et c'est difficile de pouvoir faire comprendre ces choses aux gens qui sont encore, qui ne sont pas sortis de l'église de la Odyssée, qui sont toujours là-dedans. Et qui n'ont pas compris que Jésus est dehors à la porte, qu'il frappe et qu'il veut nous en faire sortir. Ils sont toujours là-dedans, donc c'est difficile de leur faire comprendre quelque chose. Ils croient qu'ils ont raison, ils en sont persuadés. Bon, ben, il faut les laisser tranquilles. Moi, je ne cherche plus tellement à les convaincre. Il y a tellement de monde, il y a tellement de gens qui sont perdus. À quoi ça sert de se battre pour essayer d'expliquer quelque chose à des gens qui ne veulent pas entendre? Quand Paul dit que quand nous avons cru, nous avons été scellés, il faut se souvenir qu'à cette époque, une personne qui croyait était immédiatement baptisée dans l'eau et recevait le Saint-Esprit. Alors, de là à dire que le scellement, c'est le baptême d'eau ou que le scellement, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, mais il n'y a qu'un pas. Et ce pas, les catholiques l'ont franchi. Et pour être plus sûr d'être scellé, ben, ils baptisent les enfants. Voilà. Et puis les pentecôtistes l'ont aussi pris en disant que c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui est ce sceau. C'est une erreur aussi. Non, nous sommes scellés quand nous avons l'illumination, quand nous avons la révélation par le Père que Jésus-Christ est le Sauveur. à la conversion, nous avons été dépouillés de la chair par l'action du Saint-Esprit. C'est ce que Paul appelle la véritable circoncision, qui est une marque, non pas dans notre chair, c'est une signature, un signe d'appartenance, Colossiens 2:10, et c'est à la conversion, c'est lorsque nous nous tournons vers Dieu, parce que le Saint-Esprit nous a révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Sauveur. On ne peut pas croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur si ce n'est par le Saint-Esprit qui le révèle. On peut vous dire, Jésus est le Sauveur, Jésus est le Sauveur, Jésus est le Seigneur. Vous dites, ah bon, oui, bon. Mais quand ça devient une révélation de Dieu, là c'est autre chose. Au commencement de la vraie Église de Jésus-Christ, tout ça, ça se passait en même temps. Le fait de croire poussait celui qui croyait immédiatement, obligatoirement dans le baptistère. C'était comme ça. Maintenant, on a changé les choses. Les catholiques, ils baptisent d'abord, puis vous croyez après, si vous voulez. Les pentecôtistes, les évangéliques, tout ça. Alors maintenant, ils ont fait encore autrement. Vous croyez et vous devez aller à des cours, n'est-ce pas, ça peut durer jusqu'à 6 mois, où on vous forme, où on vous explique la doctrine, n'est-ce pas. Tout ça, en réalité, c'est parce qu'il y a eu tellement d'abus, tellement de gens qui ont fait semblant de croire ou qui n'étaient pas vraiment des croyants, mais des soi-disant croyants, puis qui se faisaient baptiser, puis après ça faisait des problèmes dans l'Église, que maintenant les pasteurs, pendant ces entretiens-là, ils sondent, n'est-ce pas, les candidats au baptême pour voir si vraiment ces gens-là sont des vrais croyants ou pas. À l'époque, c'était beaucoup plus facile. Dans la véritable Église de Jésus-Christ du début, c'était très facile. Celui qui croyait, il se repentait, il était baptisé, il recevait le Saint-Esprit, et puis il vendait tous ses biens, il mettait en commun, il venait vivre en communauté. Il n'y avait pas d'autre Église. Et puis ceux qui trichaient, rappelez-vous, Ananias et Saphira, clac, hein, on ne pouvait pas tricher. Maintenant on peut, donc les pasteurs sont obligés de faire des entretiens de baptême, et alors c'est très long, et puis voilà, on tourne autour du pot. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Celui qui croyait, il était poussé dans le baptistère immédiatement. Mais peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu, vous voyez, tout de suite, ils baptisaient. Et ce baptême, c'est l'image de notre ensevelissement avec Christ. C'est l'image de l'ensevelissement avec Christ. Il a été enseveli, Jésus-Christ était enseveli, mis au tombeau il y a 2000 ans, et notre baptême, c'est le signe visible que nous sommes morts au monde et donc ensevelissables. Quelqu'un qui est mort, on l'ensevelit. Violette est décédée, on va la mettre dans la terre. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, si vous êtes mort au monde, si vous êtes quelqu'un qui avait renoncé au monde, au diable et à ses œuvres, eh bien, on vous baptise, c'est-à-dire on vous immerge dans un élément qui n'est pas le vôtre, qui est un élément où vous ne pouvez pas vivre, l'eau. Voilà. Parce que comment les gens de l'Église primitive pouvaient-ils croire? Eh bien, c'était uniquement en écoutant la prédication des apôtres. Il n'y avait pas 150 000 sectes qui disaient, qui se contredisaient, qui racontaient des histoires. On écoutait les apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres enseignaient? De croire et de se faire baptiser. Actes 2, 38. Voilà. Voilà. Et le résultat, c'était que ceux qui acceptaient leur parole étaient baptisés. Acte 2, 41. C'était un acte, c'était une action. Ils se faisaient baptiser. Et tout ça, c'était ce que Dieu attendait pour pouvoir sceller, pour pouvoir signer, pour pouvoir mettre sa signature, pour mettre son nom sur eux. Parce qu'il y avait un commandement de Jésus, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire Dieu met sa signature, celui-là il m'appartient, il n'appartient plus au diable, il n'appartient plus au monde, il ne s'appartient même plus à lui-même. Maintenant, vous avez été scellé et il a fallu ces hommes, il a fallu ces femmes comme Raphaël, Violette et tous ces gens pour que cela m'arrive à moi. Et pour que cela vous arrive à vous, surtout à vous du sanctuaire qui est né de nouveau au travers de notre ministère. Ce que ces gens merveilleux ont fait, des Raphaël, des Violettes, eh bien c'est de nous lier à Jésus sur la terre, à ce Jésus qui nous a lui-même liés au ciel, selon Matthieu 16, 19. Ce que nous lions sur la terre, c'est lié dans le ciel. Parce que nous avons été scellés,
pour le jour de la rédemption, pour le jour du rachat. Il y a déjà eu un jour du rachat, c'est quand Jésus nous a rachetés. Mais pour ce qui concerne notre corps, ce jour est à venir. Romains chapitre 8, verset 23, il y a encore bel et bien un jour de la rédemption, vous voyez? Lisez Romains 8, 23, vous verrez qu'il y a un jour de la rédemption, du rachat, le rachat de notre corps. Le corps de Violette n'a pas encore été racheté. Ça sera lors de la résurrection. Amen. Élie, dans notre génération, est venu. Et son ministère était principalement, il était annoncé, comme étant principalement, non pas un ministère de guérison, ou de prophétie, ou de dévoilement des cœurs, non. Il était un ministère qui était principalement de ramener le cœur des pères vers le cœur des enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. C'est Malachie chapitre 4, verset 6 qui dit cela. Afin que le pays ne soit pas frappé d'interdit, c'est-à-dire que la terre ne soit pas frappée entièrement de malédiction. C'est important. Et cela, ce n'était pas très clair au début, au commencement de son ministère. D'abord, il fallait qu'il y ait une approbation de Dieu sur sa vie pour attirer le regard des gens, afin de pouvoir commencer à croire qu'il était ce fameux Élie. Et petit à petit, c'est devenu clair. Écoutez bien. Élie est venu pour rétablir toute chose. Il a commencé à rétablir toute chose. Maintenant, Dieu continue à rétablir toute chose. Mais lui, il est là pour rétablir toute chose, c'est-à-dire pour ouvrir la porte du rétablissement. Il a ouvert la porte du rétablissement en rétablissant la prêtrise pour montrer ce que c'est qu'une personne dans cette dispensation, pour montrer ce que c'est une personne scellée dans cette dispensation, pour montrer ce que c'est qu'une personne qui est détentrice de la prêtrise. Il nous a en cela remis les clés du pouvoir de scellement. Ah, ça, c'est du chinois pour les pentecôtistes. Il faudrait pourtant bien qu'ils comprennent. C'est cela, le pouvoir de lier et de délier. Nous lions ou nous délions sur terre au nom de Jésus-Christ. Alors, pour nous, ici même, de notre génération, ça peut nous sembler normal parce qu'on est tous nés au XXe siècle. Bon, les plus jeunes sont nés au XXIe, mais bon. Mais nous qui sommes nés au XXe siècle, ça nous paraît normal parce qu'on a toujours vu des serviteurs de Dieu qui lient et qui délient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est nouveau. Quand je dis que c'est nouveau, ça a été rétabli au cours du XXe siècle. Avant, ça n'existait pas. Ça avait été perdu au temps de l'apostasie. Des hommes impies s'étaient orgueilleusement attribué le titre de prêtre. Et maintenant, les gens ne savent plus, même dans le monde, ne savent plus ce que c'est qu'un prêtre. Vous dites prêtre, ils vont penser prêtre catholique ou ils vont penser prêtre bouddhiste. Ce pouvoir est revenu avec Élie. C'est lui qui a rétabli. En rétablissant ça, il a tout rétabli. Parce qu'en rétablissant ça, il a permis que ceux qui entrent là trouvent toutes les autres choses pour que le rétablissement puisse avoir lieu. Billy Graham, lui, n'a pas utilisé ce pouvoir. Billy Graham, c'est le dernier grand serviteur de Dieu de l'âge de Laodicée. C'est pourquoi Dieu le garde jusqu'au bout. Il le garde encore maintenant. Et puis les Osborne, les Raphaël, les Violette, tous ces gens-là l'ont utilisé, ce pouvoir. Et c'est cela qui les a différenciés de la religion laodicéenne. C'était des êtres à part. Quand j'ai écouté le sermon du serviteur de Dieu qui a prêché lors de l'enterrement de Raphaël, il a dit, il n'y en avait pas deux des Raphaël. Un homme qui avait une multitude de dons surnaturels qui les manifestait d'une façon extraordinaire. Des révélations, des miracles. Il chassait les démons. Il avait une autorité spirituelle, il avait cela. Et il y en a eu d'autres qui ont utilisé, bien sûr, mais ces trois-là, là, Osborne, Raphaël, Violette, c'était des gens qui sont de notre branche. Est-ce que vous comprenez? Notre branche, c'est notre branche. Et quand je regarde dans l'histoire de l'Église, vous allez chez les catholiques, on honore Sainte Dugule, Saint Philémon, Saint Machin, tout. Vous allez chez les protestants, on honore Luther, Calvin, voilà, tout ça. Eh bien, nous, on honore Osborne, Raphaël, Violette, Branham, des gens comme ça. Vous comprenez? En quelque sorte, je vais faire bondir les pentecôtistes. Nous, c'est non saint à nous. On ne les prie pas, hein, bien sûr que non, mais ils sont de notre, c'est no, nous sommes des fruits de ces ministères-là. Ce sont ceux de notre branche. Nous sommes leurs fruits. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette dispensation. Il y a aujourd'hui plus d'imitateurs du réel que de réels détenteurs de la prêtrise. Un don nous a été fait. Alors, ne nous endormons pas comme les disciples au jardin de Gethsémané se sont endormis de tristesse. Vous savez, je comprends très très bien ça. Quand j'ai appris la nouvelle que Violette était décédée, j'avais envie de dormir. J'ai fait la sieste tous les jours. Hein, chérie, où est-ce qu'elle est ? La tristesse, moi, ça me fait dormir. Je comprends que les apôtres se sont endormis de tristesse ce jour-là, là, cette nuit-là, au jardin de Gethsémané. Ne nous endormons pas comme les disciples au jardin de Gethsémané. Allons et portons le témoignage de Jésus-Christ aux habitants de la terre. C'est pour ça qu'on est encore là. Et je vous le dis, à ceux qui vont porter la bonne nouvelle, ces nouvelles, à ceux-là sont donnés le pouvoir de sceller sur terre et sous terre. Et ce qu'ils scellent là est scellé dans le ciel. Ceux qui ont ce pouvoir du scellement sont ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus-Christ, qui ont cru en son nom. C'est important. Qui ont été baptisés à la manière de son ensevelissement, ayant été ensevelis dans l'eau en son nom, selon Actes 2, 38. Cela afin d'être lavés et purifiés de tous les péchés, afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, ce sceau, cette signature. Nous sommes les vainqueurs par la foi, ayant été scellés par l'esprit de promesse que Dieu répand sur ceux qui lui obéissent. Ceux-là sont ceux de l'Église de Jésus-Christ selon les ordonnances du fondateur de cette Église. Les autres sont les membres des églises, voilà, de briques et de brocs, d'échafaudages plus ou moins vrais, mais où il n'y a pas l'obéissance aux ordonnances réelles du fondateur. Dieu a remis toutes choses entre nos mains et nous sommes prêtres et nous sommes rois ayant reçu de lui sa plénitude. Il vit en nous et manifeste la prêtrise de Melchisédek au travers de nous. C'est pourquoi, comme il est écrit, nous sommes des dieux. Oui, nous sommes des dieux, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des filles de Dieu. Dans le monde, on dit un chien ne fait pas des chats. Nous sommes de sa race, nous dit Actes 17, 29. L'Éternel est le Dieu des dieux, Deutéronome 10, 17. Où est-ce que Dieu siège ? Dans l'assemblée des dieux, Psaume 82, 11. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel, Deutéronome 4, 35 et 39. Et nous sommes à lui, nous sommes de sa race, nous sommes de lui, nous sommes ses enfants. Et il siège au milieu de ses enfants, au milieu des dieux. Mais il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Nous sommes un avec lui. Et nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. C'est la raison pour laquelle tout est à nous. Soit la vie, soit la mort, soit le passé, soit l'avenir, tout est à nous. Et nous sommes à Christ, et Christ est au Père céleste. Alors, nous sommes victorieux en tout. Ne croyez pas que ce qui vous arrive de désagréable est un échec. Non, c'est une possibilité pour vous de grandir. C'est une possibilité pour vous d'atteindre la stature que vous devez avoir dans les lieux célestes. Je vous ai prêché ces choses-là ces derniers temps au sujet du pourquoi de la souffrance. Et cela Ça ne nous monte pas à la tête que nous soyons victorieux en tout. Non, nous ne nous glorifions pas dans l'homme, nous nous glorifions en Dieu, qui vit en nous et dans lequel nous vivons. Il mettra tous nos ennemis sous nos pieds. Qui sont ces gens? Ces gens comme Osborne, comme Raphaël, comme Violette. Ce sont ceux qui entoureront Jésus quand il reviendra. Ce sont ceux qui ont dérobé Jésus aux yeux des apôtres quand il a disparu dans une nuée. Ce sont ceux qui reviendront avec Jésus quand il apparaîtra dans le ciel et tout œil le verra. Il sera là dans une nuée. Il nous environne, tous ces témoins qui nous ont précédés dans la gloire. Il nous environne, Hébreux 12, 1. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Élie a ouvert le chemin du pouvoir de lier et délier. Et en allant au Burkina cette semaine avec Olivier Navez et Francis Bélanger, qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Du tourisme? Non. Nous allons lier et délier, lier et délier, lier et délier, sans arrêt. Nos paroles vont lier et délier les gens. Lier ceux qui ne croient pas, délier ceux qui croient. En faisant des baptêmes à la place des morts, qu'est-ce que vous faites? Quelque chose de répétitif, d'ennuyeux? Non. Vous liez et vous déliez, vous liez et vous déliez. Vous déliez des captifs, des esprits captifs qui sont liés et qui peuvent être ainsi emmenés dans les hauteurs. Élie est venu pour rapprocher nos cœurs de père vers nos ancêtres, nos cœurs d'enfants vers nos ancêtres, afin que nous accomplissions la parole, les ordonnances du plan du salut, afin que la terre entière ne soit pas marquée par la destruction, par frappée d'interdit. Nous sommes à la fin de la fin et c'est pourquoi il faut faire ces choses. Nous sommes parvenus à la fin et les plus grands sont déjà partis pour prêcher là où Jésus a prêché pendant 3 jours et 3 nuits et nous sommes là pour terminer le travail parce que s'ils croient là-bas, ils doivent être baptisés ici. Frères et sœurs, nous sommes entrés dans ce monde dans la condition mortelle au cours de la plus grande et merveilleuse dispensation de l'Église qui n'est jamais arrivée aux humains. Le ciel se rapproche de plus en plus de la terre se rapproche de plus en plus du ciel. Et nous devons en tirer le meilleur parti. Ce n'est pas l'apostasie qui vaincra. Non. Ce n'est pas l'apostasie qui vaincra. Ce ne sont pas les faux prophètes qui vaincront. Ils peuvent séduire des multitudes, c'est rien du tout. Ce n'est pas l'apostasie, ce n'est pas les faux prophètes qui vaincront. Ce n'est pas la tiédeur non plus qui vaincra. Mes frères et sœurs, les grands hommes de Dieu et les grandes femmes de Dieu, les dirigeants des époques passées, ont pu continuer d'aller de l'avant, de témoigner, d'essayer de faire de leur mieux, non pas parce qu'ils savaient qu'ils allaient réussir. Les véritables serviteurs de Dieu savaient dans quelle époque ils vivaient. Ils savaient que ce n'était pas pour eux. Ils savaient et ils pouvaient continuer, ils avaient ce courage parce qu'ils savaient que vous réussiriez. Vous, de la dernière génération. Même Enoch en parle. Son livre n'est que pour ceux de la dernière génération. Et voilà pourquoi il est sorti là maintenant. Des grottes de la mer morte. Ce n'est pas leur situation qui leur donnait du courage. Mais c'est votre situation qu'ils voyaient prophétiquement qui leur donnait du courage. Celle d'hommes et de femmes scellés par le Saint-Esprit, allant dans le monde avec la détermination de voir l'Évangile triompher sur la terre et sous la terre. Je crois que pratiquement tous les prophètes qui nous ont précédés ont vu par moments notre époque et se sont réjouis de voir ce que nous allions accomplir. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'un danger, c'est celui de s'assoupir. S'assoupir. Je parle pour ceux qui ont l'huile, déjà en réserve. Je ne parle même pas de ceux qui n'ont pas l'huile et qui dorment déjà. Je parle de ceux qui ont l'huile en réserve, c'est-à-dire la bonne parole de Dieu, la parole spirituelle, et qui risquent de s'endormir de tristesse, de chagrin, en disant, Oh, c'est trop grave. La situation est trop pénible, c'est trop difficile. On ne sait plus par quel bout s'y prendre. Quand on voit, par exemple, en ce moment, la jeunesse, comment elle est livrée à l'impiété, élevée par des impies, on se dit, mais comment on peut redresser la barre? Comment on peut faire? Et on est tenté de baisser les bras en disant, oh, de toute façon, on n'a plus pour longtemps, on va laisser faire. Non, faut pas laisser faire. Reprenez vos enfants sévèrement. Vous les sauverez en faisant ça. Ne vous assoupissez pas. Prenez votre rôle au sérieux. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus de permettre que nous puissions être sérieux, fidèles, sincères, authentiques, remplis de santé pour pouvoir le faire. Merci Seigneur pour que le témoignage que nous avons puisse être apporté jusqu'à l'autre bout de la terre au travers d'Internet, au travers des livres, au travers des voyages missionnaires que nous faisons. Merci Seigneur de toujours nous accompagner par des signes, des prodiges et des miracles qui authentifient que ce que nous disons est vrai. Merci Seigneur pour la multitude encore qui va entendre l'évangile prêché là, d'ici jeudi prochain, là-bas au Burkina Faso. Merci Seigneur pour les invitations prestigieuses que nous avons reçues. Et je te prie Seigneur que cela puisse encore nous ouvrir des portes plus grandes pour aller apporter ton message. Que ton nom soit glorifié. Je te prie pour Ricardo, Kakouy et Maïka, afin que tu les consoles et que tu les attires à toi et que tu les sauves parfaitement et qu'ils puissent être signés de toi. Je te prie pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour tous ceux qui sont de leur famille et qui les aiment et qui t'aiment. Merci Jésus de prendre soin de tous ceux qui t'appartiennent. Veuille Seigneur Jésus les délivrer au nom du Seigneur Jésus-Christ de toute puissance mauvaise, afin qu'ils puissent marcher dans le bon chemin de la vérité de l'Évangile rétabli au nom de Jésus-Christ mon Dieu. Amen.